va passer en dessous des moyennes de saison. Il y a juste le sud-ouest où ça va remonter, mais en même temps, le sud-ouest a baissé hier. Donc, en gros, on a quand même des températures en dessous des moyennes de saison sur de nombreuses villes. Seulement 10 degrés à Aurillac au meilleur de la journée cet après-midi. Vous aurez 12 degrés à Lyon. Là, on faisait 19 hier. Hein. 14 à Marseille, 14 à Paris. Il faisait 21 dans la capitale hier. 14 à Reims, à Brest et à Nîmes. Vous aurez 15 degrés à Toulouse. Il fera 16 à Nice, à Montpellier, à Limoges, à Cognac ou encore à Nantes. 18 à Lille et 19 à Strasbourg.
Merci Marina. Vous écoutez RTL, nous sommes le jeudi 2 mai, il est 6h.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
Et le journal, c'est avec vous Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong, des vignes hachées menues, des avions déroutés, les orages ont violemment frappé en Bourgogne et en Ile-de-France, récit d'une nuit orageuse. À 2 mois des européennes, grosse turbulence à gauche, Raphaël Glucksmann prise à partie hier dans un défilé du 1er mai. Au sommaire également, des enfants débarqués d'un train par des policiers, ils avaient pourtant leur billet poinçonné. Donald Trump dévoile les contours de son programme et c'est explosif. Et puis défait mais toujours vivant, les Parisiens battus 1-0 à Dortmund hier soir. Vous l'entendrez, il y a toujours des raisons d'y croire.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Vous allez surfer avec ces politiques qui imitent d'autres politiques.
Oui, et je vous rassure, Laurent Gérard et Marc-Antoine Lebré ont de beaux jours devant eux.
A tout à l'heure après le journal.
RTL Matin.
Une nuit chaotique au son des grêlons et des grondements de l'orage. La Bourgogne, l'Île-de-France, la Picardie, la Normandie se réveillent ce matin et constatent les dégâts. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour.
On va dessiner avec vous la carte de ces orages violents. Commençons par le vignoble de Chablis dans l'Yonne. Les viticulteurs découvrent des vignes décimées.
Oui, après la chute massive de grêlons, en seulement quelques minutes, le vignoble s'est recouvert d'un épais manteau blanc de glace qui a brisé les bois des vignes. On nous parlait hier soir de balles de ping-pong tombées du ciel. Résultat, ce matin, la plupart des domaines sont décimés. Les vignerons sont actuellement en train de constater les dégâts. Jean-Paul Duru était en route pour ses vignes il y a quelques heures.
J'ai pris la voiture, je suis allé voir sur place. Je me suis retrouvé dans un orage de grêle considérable. Les parcelles qui étaient toutes blanches, je doute qu'il reste grand-chose. Moi, j'ai des confrères dont j'ai eu des échos qui ont perdu déjà à 100% certaines parcelles. Et là, je dois avouer que en 10 minutes, tout est parti, quoi.
Alors, il est encore tôt pour donner une estimation globale des dégâts, mais l'un des plus importants exploitants du vignoble nous parlait de 85% de destruction sur la récolte de 2024.
Et en région parisienne, des avions ont été déroutés à Roissy et à Orly, hein, Valentin.
Effectivement, plus d'une dizaine de vols déroutés vers Bruxelles, notamment car la ligne orageuse s'est décalée vers l'Île-de-France. Les avions sur le tarmac ont été touchés par la grêle. Le terminal 2 de Roissy était inondé et les rues des communes alentours se sont transformées en torrents. Comme à Tremblay en France, par exemple, où une couche de plusieurs centimètres de glace était observée hier soir. Ce matin, l'inquiétude est du côté du Calvados, puisque les cours d'eau réagissent. La Touque est entrée en crue. Elle est actuellement à un niveau inédit depuis 25 ans.
Et on entendait la détresse d'un viticulteur dans le Chablis. Merci Valentin Boisset. Ce matin à l'Élysée, c'est le monde agricole dans son ensemble qui a reçu à l'Élysée les syndicats conviés par Emmanuel Macron pour acter la fin de la crise. La rencontre aurait dû se dérouler 3 semaines après le salon de l'agriculture, à la sans cesse s'était repoussée. Les annonces du week-end dernier ont réchauffé l'atmosphère, semble-t-il.
On sera à 6h15 avec Véronique Lefloc, la présidente de la coordination rurale, qui sera mon invitée. C'est l'image politique de ce 1er mai, Raphaël Glucksmann, exfiltré du défilé à Saint-Étienne.
Le candidat du PS est de place publique aux européennes, brocardé par des militants de gauche. La gauche qui se déchire. Raphaël Glucksmann a immédiatement accusé la France insoumise d'être derrière les insultes. LFI a riposté en pointant les communistes. Les jeunes communistes de la Loire ont effectivement publié une photo d'une banderole. Glucksmann dégage sur X. Leur leader, Fabien Roussel, condamne sur RTL. Invité de Julien Cellier hier soir, il nie toute responsabilité.
Il n'y a personne du Parti communiste français qui a revendiqué cet acte. Et si tel était le cas, ils n'ont rien à faire dans notre organisation. Voilà. Et donc, j'ai condamné, je regrette, c'est inadmissible. Ceux qui commettent ce genre d'actes n'ont rien à faire dans des organisations de gauche progressistes, je le dis, c'est clair. Je vous l'ai dit une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, je pense qu'on devrait parler, à l'occasion du 1er mai, de la smicardisation de la France, par exemple.
Fabien Roussel, secrétaire général du PCF, et l'incident d'hier risque d'être abordé dimanche sur RTL. Votre radio organise un grand jury exceptionnel de midi à 14h. Un débat avec pour la première fois les 7 têtes de liste données au-dessus des 5% dans les sondages. Raphaël Glucksmann sera là, tout comme Valérie Ayer ou encore Jordan Bardella. L'émission en direct sur RTL et Paris Première, diffusée ensuite à 18h sur LCP, la chaîne parlementaire. Un cocorico au rayon économie pour la 5e année de suite. La France désignée pays le plus attractifs d'Europe. Près de 1200 annonces de projets d'investissement étrangers l'an dernier. Ce sera la chronique de Martial Liu dans la tablée du Petit Matin.
On en vient à cette histoire à peine croyable. Antoine, trois enfants débarqués d'un train emmenés au poste.
Des enfants de 8, 11 et 13 ans. Les deux plus grands mis dans le train samedi dernier par leur père à Lille, direction Rennes pour aller chez leur mère. Ils étaient censés voyager avec des billets junior et compagnie, donc être accompagnés par des animateurs. Il faut normalement pour cela arriver une heure avant le départ. Mais ce jour-là, Antoine Decarne, ils sont arrivés en retard à cause d'un imprévu sur la route.
Oui, un retard qu'Emeric Lavanchy ne pensait pas rédhibitoire.
Le train était à 17h39, on a dû arriver à 17h30. Et là, le train était en retard.
Un retard de 15 minutes qui lui permet de faire monter ses deux enfants dans la voiture.
Passé par une autre porte, j'ai demandé aux enfants d'aller s'asseoir dans la voiture Junior & Co. 20 bonnes minutes avant le départ effectif du train. Ils avaient largement le temps d'enregistrer, à mon avis. Et là, là-dessus, le personnel m'a dit, écoutez, on ne peut pas les enregistrer, on peut pas les prendre en charge. J'aurais demandé, mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils ont le droit de voyager seuls? Mon fils ayant 13 ans révolu, ils m'ont dit oui, lui, il n'y a pas de problème, à SNCF, autorise les gens à voyager seuls à partir de 12 ans. Il se pose le problème de ma fille, et là on m'a dit, ah ben votre fille est accompagnée par votre fils. Donc il n'y a pas de souci, ils peuvent voyager seuls.
Un contrôleur valide alors les billets de Louis et Jeanne, sauf qu'une heure plus tard à Roissy,
il y a 8 policiers qui sont montés dans la rame pour sortir 3 enfants, considérés comme des clandestins. Ils n'ont pas à prendre mes enfants comme ça, je trouve ça totalement incompréhensible. Et ils me donnent une adresse GPS à Roissy en me disant de venir.
Ils foncent donc à la police, récupérer les enfants au poste pour qu'ils rejoignent leur mère. La SNCF, elle, assure que sans l'enregistrement en gare, les enfants n'était plus sous la surveillance d'un adulte. Contactée, elle explique avoir suivi la procédure normale pour la sécurité des enfants.
Le récit d'Antoine Decarne, correspondant de RTL dans le Nord.
On parle d'enfants de 8, 11 et 13 ans.
Tout de même.
Expulser des millions de gens, limoger des milliers de fonctionnaires, une justice aux ordres, voilà ce à quoi pourrait ressembler le second mandat de Donald Trump.
L'ex-président américain esquisse son programme dans le magazine Time de cette semaine. Karine Auton, vous êtes notre correspondante aux États-Unis, mais jusqu'où ira Donald Trump ?
Eh bien, allons croire, il est prêt à aller très loin. Sur le plan intérieur, Donald Trump veut supprimer la Constitution, installer ses fidèles au poste clé. Il déploiera les gardes nationaux contre les manifestants en général et graciera tous les condamnés de la prise du Capitole. Il prévoit aussi la construction de camps géants pour SDF. L'immigration, c'est toujours un dossier chaud de la campagne. S'il est élu, il fera électrifier le mur à la frontière mexicaine, permettra de tirer à vue, bombardera le Mexique carrément et supprimera le droit du sol. Côté climat, il sortira les États-Unis de l'accord de Paris et utilisera plus d'énergie fossile. Enfin, Donald Trump abat ses cartes sur deux enjeux majeurs. Il n'est pas pour une solution à deux États au Moyen-Orient. Et concernant l'avortement, il autorisera les États américains à, je cite, « punir les femmes comme ils le souhaitent ».
Karine Auton du bureau de RTL à New York. L'actualité à l'international, c'est aussi cette accusation des États-Unis contre Moscou. Selon Washington, l'armée russe a utilisé un agent chimique en Ukraine. C'est encore cette image en Géorgie. Des dizaines de milliers de manifestants dans la rue. Ils protestent contre un projet de loi contesté sur l'influence étrangère. Le gouvernement semble s'inspirer de la Russie pour museler les oppositions.
En football, ils ont déçu, mais ils peuvent encore y croire. Les Parisiens battus hier soir à Dortmund.
Le Borussia s'est imposé 1-0 devant son public en Allemagne. Le PSG a manqué d'intensité, de réalisme dans cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Mais il reste le match retour la semaine prochaine et Nicolas Georgerot. Il y a des raison d'espérer un nouveau retournement de situation.
Alors oui, il ne faudra pas calculer et c'est sans doute ce qui va le mieux à ce Paris Saint-Germain, jouer sans retenue, lâcher le frein à main, tout le contraire de la première période d'hier. Et il a manqué l'adresse devant le but, ce sera rectifié, assure le capitaine Marquinhos.
On n'a été pas dans notre meilleure soirée, on a eu des occasions pour amener un match nul à Paris et même gagner le match. On a eu beaucoup d'occasions, il faut juste améliorer dans ce dernier geste. Et les ballons qu'on a Paris aussi à les concrétiser, on va les concrétiser.
Car le PSG n'a pas marqué en Ligue des Champions pour la première fois de la saison. difficile d'imaginer que ça se reproduise à 6 jours d'intervalle, surtout à domicile. Le groupe parisien est prêt à renverser ce score défavorable, explique le gardien Gianluigi Donnarumma.
Tout le monde c'est le positif, tout le monde s'est énervé pour ce soir, mais positif pour le match de retour. Oui, et je suis sûr qu'à Paris, c'est notre match.
C'est la deuxième fois après Barcelone que Paris est contraint à l'exploit au retour. C'est un motif d'espoir, l'équipe de Luis Enrique en est capable. C'est aussi une inquiétude, car c'est peut-être la fois de trop dans une compétition qui ne pardonne rien.
Le match retour mardi prochain au Parc des Princes, ce sera à vivre sur RTL, tout comme la nouvelle soirée foot du jour, 20h-23h, l'OM également en lice pour une finale européenne. Là, c'est la C3, la Ligue Europe. Demi-finale aller contre l'Atalanta Bergame, coup d'envoi 21h, le match est diffusé sur M6. Les courses aujourd'hui à Chantilly et le départ à 20h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 9, l'As, le 7, le 15, le 13, le 16, le 10. L'outsider de RTL, c'est le numéro 15, Joli Prince.
Merci beaucoup Antoine Cavallero. Vous revenez à 7h30 ?
À 7h30.
À tout à l'heure. Vos messages, Marina.
Nous avons Franck qui est à Troarn dans le Calvados sous la température est de 9 degrés. Il nous dit la pluie vient enfin de s'arrêter. Il pleuvait depuis hier midi en version non-stop. Il a même rallumé la cheminée. C'est vrai qu'après les intempéries, les températures sont en baisse. Nous avons Emmanuel qui lui a de la chance puisqu'il est à Lannion en Côte d'Armor et le ciel est relativement dégagé. C'est en Bretagne et sur les Pays de la Loire en effet que ce matin on a un ciel dégagé et vous n'êtes pas nombreux. Il fait 10 degrés en ce moment à Lannion. Et puis Stéphane est à Mulhouse. La température y est de 14 degrés.
Merci Marina.
RTL Matin, le surf de l'info.
Cyprien, vous surfez donc ce matin avec ces politiques qui imitent d'autres politiques.
Et oui, car avant-hier à l'Assemblée, l'insoumis Hugo Bernalicis s'est attaqué à Éric Dupond-Moretti.
Et il est où le ministre de la Justice qui, face à Madame Le Pen, disait ici même
« Attention, tentative d'imitation, vous êtes prêts ?»«
Le répressif avec les gamins, ça ne marche pas !»
Eh ben, c'est pas si mal, hein. Ouais, je vous fais écouter le vrai.
Le répressif pour les gamins, ça marche pas.
Hugo Bernalicis, qui avait déjà attaqué le ministre, en tentant une parodie, cette fois-ci, plus qu'une imitation, de sa compagne Isabelle Boulay.
Oh, dis-moi, regarde-moi, je ne sais plus comment aimer mon boulot de greffier. Parle-moi.
Député.
Ah, oui, bon, c'est un peu gênant, facétieux, quoi, Hugo Bernalicis, qui n'est finalement pas le premier politique à en imiter d'autres. Mention spéciale pour Bruno Le Maire.
Nicolas Sarkozy me convoque. Il me dit, bon ben Bruno, tu vois, on va te changer de poste là. Bon ben maintenant, mon petit Bruno, on fait quoi là? Hein? Et puis tu me rappelles, mon Bruno.
Pas mal, Bruno Le Maire. À l'aise aussi avec Jacques Chirac en plus.
Chirac à l'appareil. Vous êtes bien le directeur de cabinet du Premier ministre. Vous prenez votre décision et vous me foutez la paix.
Ouais, il est mûr pour monter un show, Bruno Le Maire. Un Chirac très très souvent imité. Même Marine Le Pen a essayé. J'ai bien dit. Essayez.
Aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est la démocratie.
Oui, bon, alors là, c'est carrément gênant. Presque autant que Philippe de Villiers qui tente Charles Pasqua. Accrochez-vous bien.
Chers amis, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne le fera à sa place. Voilà.
Voilà, hein, Charles Pasqua avec l'accent vendéen. Après, il y en a qui sont quand même très très bons. Édouard Philippe en Giscard.
Puis il me regarde, il me dit, je crois que c'est intéressant, ça ne marchera pas pour deux raisons. La première, c'est que vous avez voulu structurer la vie politique autour de deux grands partis sans changer le mode de scrutin. Comme vous n'avez pas changé le mode de scrutin, ça ne marchera pas. Deuxième raison, c'est que vous n'avez pas profité de la création de l'UMP pour vous débarrasser des vieux barons.
Il le tient très très bien, tout comme Martine Aubry qui imite Ségolène Royal. Alors, je vous préviens, c'est très court, mais plutôt réussi. Attention.
Allô Martine, c'est Ségolène.
Ah ouais, alors c'est très court, mais quand même. Hein.
Allô Martine, c'est Ségolène.
Ah ouais, non, c'est vraiment pas mal, mais quand même, le mieux, ça reste que chacun garde ses propres attributions.
Mais c'est pas mal du tout. Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, est notre invitée alors qu'Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les syndicats agricoles. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci de venir nous voir de bon matin. Le dialogue est renoué alors avec le président, tout va bien?
Mais écoutez, jusqu'à présent, on se demandait si on allait être invité ou pas à cette réunion, donc en tout cas, on va pour l'entendre.
À tout de suite, 6h13.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
Au livre de poche, L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Une fresque romanesque qui explore la destinée des femmes des années 60 à nos jours à travers la vie de quatre héroïnes, dont celle de Ménie Grégoire. RTL.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer ces nouveaux avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
La BD RTL du mois a été décernée à l'album La Route de Manu Larsonnet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Avec une originalité absolue, mais dans une totale fidélité, Manu Larsonnet s'approprie l'univers sombre et fascinant de ce texte majeur de la littérature américaine. Une adaptation d'une beauté saisissante, à la fois puissante et poignante. La Route de Manu Larsonnet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, aux éditions d'Argo, élu bande dessinée RTL du mois, avec Cultura.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Avant de retrouver notre invité, coup d'œil au journal de 6h30 et sa campagne des européennes et avec des tensions à gauche. Hier, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS, a été pris à partie à Saint-Étienne par des militants de gauche. Il a dû être exfiltré et selon lui, ce sont des militants de la France Insoumise qui l'ont insulté.
Depuis le début, ils font de notre liste, de notre dynamique à gauche, leur adversaire principal. La vérité, c'est qu'ils ne supportent pas qu'une gauche pro-européenne puisse avoir une telle dynamique.
On y revient dans le journal de 6h30.
RTL.
Les trois questions du petit matin.
Avec donc ce matin Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Je précise que vous êtes aussi éleveuse laitière en bio dans le Finistère. Vous serez donc reçue aujourd'hui avec les autres syndicats agricoles par Emmanuel Macron à l'Élysée, alors que dans le même temps, les débats se poursuivent en commission à l'Assemblée sur le projet de loi agricole. D'abord, votre sentiment après ce gros épisode orageux d'hier soir en Bourgogne, en Île-de-France et aussi en Normandie. Vous savez si des exploitations ont été touchées. Est-ce que vous avez une idée ce matin, là, à 6h15, de l'ampleur des dégâts ?
Alors d'abord, en tant que présidente de la coordination rurale, je leur apporte tout mon soutien parce qu'on sait que dans certaines zones, telles que la zone du Chablis, 50 à 80% des vignobles sont touchés. C'est à chaque fois un coup dur pour les exploitations et des années de travail qui s'envolent. Donc je m'y rendrai la semaine prochaine avec une équipe. Et on va pouvoir constater ces dégâts et voir quel type de dossier il faudra aussi monter pour faire en sorte que cela puisse partir le plus vite possible.
Et l'État protège dans ces cas-là ?
Eh bien écoutez, ils se rendent compte qu'il y a une nécessité de prévenir tous ces dégâts avec l'annonce qui a été faite par Gabriel Attal la semaine dernière pour un plan, on va dire, d'action climat pour trois départements. Mais finalement,
les Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales, hein. L'Hérault et un troisième département. Mais ces événements climatiques, qu'ils aillent de la sécheresse aux inondations, vont être de plus en plus courants et on doit prévenir ces sinistres partout en France.
Des épisodes qui sont de plus en plus intense, hein, c'est ce que nous disait un vigneron tout à l'heure à 5h15. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin, plus de 3 mois maintenant après le début des manifestations d'agriculteurs? Une loi est en cours, le président vous reçoit, les choses sont rentrées dans l'ordre?
Eh bien écoutez, peut-être que le syndicat majoritaire ou dit majoritaire,
la FNSEA
s'exprimerait ainsi, pas pour la coordination rurale. La colère n'est pas retombée, les annonces s'enchaînent sans jamais nous satisfaire en totalité. Pour nous, à la coordination rurale, on attend que le président tourne la page et qu'il tourne la page de la co-gestion avec justement ce syndicat, la FNSEA.
Mais il y a les jeunes agriculteurs aussi qui disent comme la FNSEA.
Oui, et c'est...
Vous êtes un petit peu les seuls à...
Eh bien écoutez, sur le terrain, de nombreux jeunes rejoignent la coordination rurale, des moins jeunes, des agriculteurs de partout, parce que justement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est bien le résultat de 30 années de co-gestion, de politique, qui a été tournée vers la mondialisation, vers des exports, une politique toujours au profit de ces multinationales.
Concrètement, Véronique Le Floch, aujourd'hui, vous ne voyez pas l'effet dans les fermes des 67 annonces qui ont été faites par le gouvernement depuis le début de l'année. Rien, nada.
Alors, je vous invite à venir dans les différents départements dans lesquels je me suis déplacée ces dernières semaines et que je vais continuer à visiter. Les agriculteurs attendent toujours ce qui leur est dû. Il peut s'agir des aides de la PAC, parce que contrairement à ce qu'on a pu nous dire, toutes les aides ne sont pas versées.
Il reste combien de pourcentage d'agriculteurs qui n'ont toujours pas reçu l'aide de la PAC ?
Alors, si j'étais le ministère, je vous répondrais moins de 1%. Mais moins de 1% uniquement pour certaines aides qui sont des aides liées aux surfaces. Ensuite, vous avez des aides pour les conversions en bio, vous avez des aides pour des mesures agro-environnementales, vous avez aussi toutes les enveloppes qui ont été prévues par rapport à la sécheresse, par rapport aux maladies. Et là encore, beaucoup de dossiers sont exclus parce qu'ils ne peuvent pas être montés ou parce qu'ils sont limités par les montants. Et 20 000 euros sur 3 ans, ce n'est rien.
Qu'est-ce que vous allez demander tout à l'heure concrètement, Emmanuel Macron ?
Déjà qu'il tienne ses engagements, justement, verser ses aides, qu'il nous protège comme il s'y était annoncé. Et puisque cette réunion doit porter sur les perspectives pour l'agriculture française, on attend à ce qu'il nous porte un nouveau projet, un projet qui justement inscrirait l'agriculture comme une exception, découplée de toutes ces éco-contraintes et qui donnerait de l'avenir aux agriculteurs avec des prix pour nos produits.
Alors justement, c'est un petit peu la philosophie du texte de la loi agricole qui est examinée en ce moment à l'Assemblée. Ouvrir le métier à d'autres gens qui ne sont pas issus du monde agricole via de la formation, via des simplifications de procédures. Est-ce que vous y croyez, l'objectif de trouver 200 000 chefs d'exploitation d'ici 10 à 15 ans? C'est ça l'objectif de ce texte, ouvrir le métier. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette philosophie-là? Est-ce que le gouvernement se donne les moyens d'y arriver?
Alors le seul moyen pour ouvrir un métier à de nombreux candidats, c'est si ce métier sera demain rentable. Et aujourd'hui, après 30 ans de politique agricole commune, une politique qui, je le répète, a été écrite au profit des multinationales, des industriels, parce qu'avec cette politique, on allait leur garantir un prix minimum pour eux permettre leur développement et d'aller à l'international. Donc les agriculteurs que nous sommes avons des prix qui sont restés des prix planchers depuis 30 ans. Ces prix étaient du coup complétés par les aides que la coordination rurale n'a jamais voulu. Donc, sans revalorisation de ces prix, le métier ne sera pas rentable et n'attirera pas plus de candidats.
Donc ça ne va pas bouger.
Eh bien écoutez, ce n'est pas en évaluant les exploitations avec un diagnostic modulaire. Alors le diagnostic modulaire,
on va pas rentrer dans ces détails, mais
c'est un diagnostic comme pour nos habitations, ouais, qui va classifier nos exploitations pour savoir si elles seront résilientes ou pas. Ce n'est pas avec de la financiarisation de nos exploitations qu'on va attirer plus de jeunes.
Et vous le direz donc au président de la République que vous verrez tout à l'heure. Merci beaucoup Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur RTL. Bonne journée.
Merci.
Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour, bonjour à tous.
Avec un événement ce jeudi en librairie, le retour de Franck Tillier.
Oui, c'est l'auteur de polar préféré des Français, le plus lu et le plus vendu ces deux dernières années. Voici sa nouvelle enquête, Norferville. C'est absolument terrifiant et passionnant.
6h22.
RTL Matin. Avec Jérôme Florin. Exclusif en clair sur M6. Vivez la demi-finale aller de l'UEFA Europa League Olympique de Marseille Atalanta Bergame. L'objectif pour les Marseillais sera de remporter ce match à l'Orange Vélodrome et espérer ainsi se qualifier pour la finale lors du match retour. La demi-finale Olympique de Marseille Atalanta Bergame, commentée par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri, c'est ce soir à 20h50 sur M6.
Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Aujourd'hui, 2 mai, je vous parlerai de l'issue d'une bataille héroïque, celle de Massada en Judée, le 2 mai 73 après Jésus-Christ. Massada, will never fall again, pour ceux qui connaissent.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À tout à l'heure.
Laissez-vous tenter.
première.
Avec une sortie très attendue donc aujourd'hui en librairie, le nouveau polar de Franck Tillier, l'auteur numéro 1 du genre en France, le plus lu et le plus vendu ces deux dernières années, Bernard Lehu.
Et alors ce nouveau suspense a pour titre Norfairville, une cité minière du Grand Nord québécois. Le premier intérêt du nouveau Franck Tillier, eh bien c'est ce décor du bout du monde à couper le souffle dans des conditions climatiques extrêmes.
Ça remonte à un voyage que j'ai eu l'occasion de faire au Québec il y a environ 5 ans, mais purement de vacances en fait. Et ce qui m'avait vraiment interpellé, c'était cette nature incroyable, gigantesque, à la fois fascinante et hostile. Ce froid, le froid est un vrai aussi personnage. Sur 450 pages, il est omniprésent. Et voilà, je suis rentré chez moi et puis la graine a germé. Et au moment de rechercher une nouvelle histoire, c'est vrai que ces paysages, cette nature a ressurgi. Et j'ai eu une envie vraiment de grands espaces, une vraie envie de nature. Et je me suis mis à faire quelques recherches sur le Québec en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir raconter comme histoire.
Alors justement, quelle histoire il raconte aujourd'hui Franck Tillier, Bernard ?
Eh bien, il va s'inspirer d'un fléau méconnu de ce côté de l'Atlantique qui touche les femmes d'origine indienne, les autochtones, parquées dans des réserves. Elles sont la proie privilégiée de prédateurs. Plus de 1200 de ces descendantes des tribus traditionnelles ont disparu, ont été assassinées en 40 ans.
Oui, oui, c'est un fait incroyable. C'est une surreprésentation de la violence chez les femmes autochtones. Donc, quand je parle de violence, je parle de meurtre, de disparition chez des jeunes filles, parfois. Il faut savoir qu'une jeune autochtone amérindienne 10 fois plus de chances de se faire assassiner ou agresser qu'une non-autochtone. Et tout ça est très présent, puisqu'en 2015, il y a eu une commission d'enquête qui a été ouverte, parce qu'on a constaté ça. Ça faisait des années qu'on en parlait, qu'il y avait des plaintes, mais personne ne faisait rien. C'est vrai que j'avais envie de parler de ces femmes qu'on oublie, dont on ne connaît pas forcément l'histoire.
Et sur ce terrible fait de société, Franck Tillier greffe une intrigue policière.
Un criminologue français, Teddy Chaffran, apprend que sa fille, installée au Québec, a été sauvagement tuée à Norfairville, cette cité minière dont le nom donne son titre au livre. Alors il se rend sur place et mène l'enquête avec Léonie Rock, flic métisse, qui revient dans cet endroit où, adolescente, elle-même a été victime d'un viol.
Alors je voulais que ça reste un roman français quand même, donc c'était important pour moi d'avoir un personnage français et qui ne connaisse pas du tout cet environnement. Ça fait partie un peu des techniques du thriller. Et il va débarquer là-bas, et comme il n'y connaît rien en fait, on est obligé de lui expliquer les choses. Et moi, ça me permet, à moi, auteur, de transmettre un peu au lecteur tout ce que j'ai pu découvrir pendant mes recherches à travers les yeux de Teddy. Et puis, il y a ce personnage de Léonie qui, elle, est vraiment du pays, qui connaît les gens, qui connaît cette ville puisqu'elle y a grandi, mais qui n'a pas les compétences de Teddy. C'est-à-dire qu'elle, c'est quasiment sa première grande affaire criminelle. Elle est très factuelle, elle suit des procédures, mais elle ne rentre pas dans la tête du tueur. Et c'est ce que fait Teddy, donc ça fait un duo qui fonctionne très très bien.
Et un duo terriblement attachant, Norfairville, le nouveau et excellent Franck Tillier, est à lire au Fleuve Noir.
Et ça donne envie. Merci beaucoup Bernard.
Laissez-vous tenter, première.
Un extrait de vos grosses têtes. Vous les retrouvez tous les jours entre 15h30 et 18h avec Laurent Ruquier. Et une question d'histoire.
Qui s'est mariée à 33 ans et qui est morte le jour de son mariage.
C'est un personnage de fiction.
De fiction, non. Ils se sont mariés et elle est morte le jour
même. Ah, mais je sais qui c'est. Oh, le boulet. C'est Eva Braun et Adolf Hitler.
Bonne réponse. Bonne réponse de Paul Alcarat. Eh oui. Mais en tout cas, effectivement, on l'oublie parfois, ils se sont mariés, c'est quand même fou, Adolf Hitler et Eva Braun, le 30 avril 45, avant de se suicider.
Oui, c'est facile de se marier quand tu sais que tu vas te suicider après. Sinon, il aurait réfléchi. Hein.
Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Je rappelle que pour assister à l'enregistrement de l'émission, c'est très simple, hein, vous vous inscrivez sur public.rtl.fr. FR. Marina, le gros des orages est passé. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est passé hier soir de la Bourgogne à l'Île-de-France, à la Picardie, jusqu'au nord de la Normandie. Et en ce moment, les orages sont au sud de l'Angleterre. Donc, les orages sont passés. Il y en a encore quelques-uns qui traînent sur la région Grand Est, mais de façon localisée, on n'a pas les impacts. En tout cas, le gros amas orageux que l'on a eu cette nuit. On aura aussi quelques orages sur l'ouest de la Corse. C'est tout pour les orages. Mais en revanche, c'est pas pour ça qu'on a un temps calme, hein, puisque c'est la pluie qui domine. C'est bien pluvieux de la Corse à la Provence, à Rhône-Alpes, Côte d'Azur, de l'Occitanie, en remontant vers le Limousin, l'Auvergne, Rhône-Alpes, quelques averses aussi en Aquitaine. Donc sur le Grand Est, on a quelques orages encore. Ce sera perturbé comme ça toute la journée sur une grande partie du pays où on aura un temps nuageux, pluvieux. Toujours quelques orages sur le Grand Est et l'Ouest de la Corse cet après-midi. De la neige aussi en montagne, que ce soit sur les massifs des Alpes, des Pyrénées ou le massif central. Alors il y a quand même une zone où c'est mieux ce matin, c'est la Bretagne et les Pays de Loire. Alors vous avez quelques passages nuageux et quelques gouttes, mais rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Et surtout vous avez aussi de très belles éclaircies. Et ces éclaircies vont gagner du terrain cet après-midi, concerner le Poitou-Charentes et l'Aquitaine où il pleut ce matin. Mais ça ira mieux cet après-midi. Pour les autres, pas d'amélioration. À signaler que si on n'a plus de vigilance orange aux orages. On a une vigilance orange crue pour le Calvados. Il a plu, il pleut encore, il y a certains cours d'eau qui débordent.
Les températures.
Alors là, les températures seront en baisse cet après-midi sur les trois quarts du pays. Juste sur le sud-ouest, ça va remonter parce que hier, ça avait fortement baissé. Comme il y aura un petit peu de soleil dans l'après-midi, ça va remonter, mais sinon généralement, c'est en baisse. On est de toute manière en dessous des moyennes de saison. Hein. Comptez 10 degrés à Aurillac au meilleur de la journée. 12 à Lyon, 14 à Marseille et à Paris. Il fera 15 à Toulouse, à Nevers et à Tarbes, 16 à Montpellier, Limoges, Nantes et Nice, 17 à Rennes, 18 à Lille et 19 à Strasbourg.
Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et vous Marina, bonjour à tous.
Bonjour.
Alba, un point c'est tout, ce matin le plus grand club de pétanque de la capitale, menacé.
Ah, c'est Clochemerle à Montmartre. Alors en tout cas moi, entre le club bouliste et l'hôtel qui veut récupérer le terrain de boule, je vote pour la pétanque.
Marina, dans cette ambiance orageuse, gros plan sur les foudroiements.
Mais oui, parce qu'il existe plusieurs manières de se faire foudroyer. Alors se prendre un coup de foudre direct sur la tête, c'est extrêmement rare. Donc je vous donnerai le foudroiement le plus fréquent dans un quart d'heure.
Martial, tout n'est pas fichu. Hein. La France attire toujours.
Des résultats du tonnerre pour prolonger Marina. Nous sommes toujours numéro 1 en Europe des investissements étrangers. 1194. Mais attention, les Anglais arrivent.
Florian, les pourquoi de l'info avec vous ce matin.
Hier, c'était les 30 ans de la mort d'Ayrton Senna, le pilote de Formule 1 brésilien. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi son casque à Ayrton Senna est entré dans la légende.
A tout à l'heure. Très bon début de journée avec RTL. Il est 6h30.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Et le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
Et à la une de votre journal, la gauche qui se déchire un 1er mai.
Raphaël Glucksmann, candidat PS Place Publique aux Européennes, a été exfiltré hier d'une manifestation. Il met en cause la France insoumise, provoquant la colère de Jean-Luc Mélenchon. Dans quel état sont les vignes ce matin? Dans le Chablis, Lyon a vécu un déluge de grêle hier soir. Les orages ont été très violents également à l'est et dans le nord de l'Île-de-France. Dans ce journal également, près de 2 tonnes de cocaïne saisies à Saint-Martin dans les Antilles. Les trafiquants ont réussi à échapper aux gendarmes. Une famille de Dordogne qui maquille sa boîte aux lettres en faux radar. Et le PSG qui rate la première manche hier soir, défaite 1-0 à Dortmund, alors que l'OM reçoit les Italiens de l'Atalanta Bergame ce soir en demi-finale aller de la Ligue Europe.
RTL Matin.
L'union autour de la NUPES n'est plus qu'un lointain souvenir et c'est un nouvel épisode de la guerre des gauches qui s'est joué hier à Saint-Étienne. Le candidat PS Place Publique, Raphaël Glucksmann, était venu soutenir les salariés de Casino, mais il a dû partir sous la pression de militants. Les jeunes communistes de la Loire ont publié une photo de leur banderole, Glucksmann dehors, mais c'est la France insoumise que le candidat exfiltré a mis en cause, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, la scène dure 6 petites minutes, mais ses conséquences seront sans doute durables. Exfiltré du cortège, Raphaël Glucksmann et son équipe ont immédiatement mis en cause la France insoumise. Nous avons joint le candidat au téléphone peu de temps après la manifestation.
Depuis le début, ils font de notre liste, de notre dynamique à gauche, leur adversaire principal. La vérité, c'est qu'ils ne supportent pas qu'une gauche pro-européenne puisse avoir une telle dynamique.
Jean-Luc Mélenchon se désolidarise très vite des fauteurs de troubles avant de contre-attaquer, car sur les images, on voit des drapeaux des jeunes communistes, mais pas ceux de la France insoumise.
Je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée, mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France insoumise.
et il demande des excuses à Raphaël Glucksmann pour cette accusation qu'il estime mensongère. Bilan de ce 1er mai pour la gauche, des vêtements tachés de peinture et une campagne qui se tend singulièrement.
Merci Marie-Bénédicte Allaire. Hier dans RTL Bonsoir, le secrétaire général du Parti communiste Fabien Roussel a condamné cette action et démenti toute responsabilité. Voilà pour l'ambiance tendue à gauche, alors que dimanche sur RTL et avant donc ces élections du 9 juin, vous vivrez en direct le débat qui réunit pour la première fois les 7 têtes de liste données à l'heure actuelle au-dessus des 5% d'intention de vote, et notamment Jordan Bardella qui dirige la liste RN et qui jusqu'à maintenant n'a participé à aucun débat général. Grand jury RTL Européenne 2024, midi 14h donc dimanche, avec Paris Première et la chaîne parlementaire LCP qui diffusera d'ailleurs ce débat de son côté à 18h dimanche.
Il est 6h33, on en vient maintenant à ces grêlons qui ont ravagé hier soir les vignes du Chablis.
Oui, les orages ont été très violents, les images de ces grêlons énormes sont impressionnantes et les dégâts potentiellement sont colossaux. Jérôme, vous avez eu tout à l'heure en ligne un vigneron, précisément producteur de Chablis à Maligny dans l'Yonne, et il s'appelle Olivier Savary.
Hier soir, donc l'orage a été vraiment très très violent, beaucoup de vent et des épaisseurs de grêle assez impressionnantes. On va faire le bilan ce matin parce que hier soir c'était vraiment très compliqué, il y avait beaucoup d'eau, on pouvait pas rentrer dans les parcelles, mais je pense que les dégâts sont très conséquents. Les récoltes sont bien entamées et on a des canons à grêle qui nous permettent de diviser la grosseur des grêlons. Mais les dégâts sont présents quand même.
Comment ils fonctionnent, ces canons à grêle? Expliquez-nous.
On envoie dans les nuages du iodure d'argent pour que les grêlons soient petits et ne puissent pas s'agglomérer entre eux et tombent mais en grand nombre, mais petits. Et donc ça fonctionne. Mais ça ne supprime pas la grêle, ça la divise seulement. C'est ravageur, quoi. On repart de zéro à chaque fois, quoi. Il y a des matins, c'est pas facile.
Voilà Olivier Savary, producteur de Chablis dans l'Yonne. À partir de 7h, on sera en direct avec l'envoyé spécial d'RTL, Margot Munoz, et ses professionnels qui vont inspecter leurs vignes et qui craignent pour certains avoir perdu des parcelles entières. Les orages ont été très violents, près de 23 000 impacts de foudre recensés en 12 heures en France. Les départements les plus touchés sont l'Oise, suivi de la Seine-et-Marne et donc de l'Yonne. Les orages violents également dans le nord de l'Île-de-France, à tel point d'ailleurs qu'une dizaine d'avions qui ne pouvaient pas atterrir ont dû être déroutés de Roissy. À retenir à l'étranger, l'interview de Donald Trump au Time. S'il gagne, c'est le titre, et les mesures qu'il avance sont extrêmes. Construction de camps à la frontière, arrestation et expulsion de 11 millions de clandestins, quitte à faire appel à l'armée. Il veut gracier les émeutiers du Capitole, et il menace même de procès de Joe Biden, qui l'accuse de crime, mais sans jamais préciser sa pensée. Les États-Unis, de leur côté, accusent la Russie d'avoir eu recours à un agent chimique contre les forces ukrainienne en violation de conventions internationales. Et pour Washington, ça n'est pas un acte isolé, mais cela correspond à une stratégie pour délocher les forces ukrainiennes de leur position sur le front.
Près de 2 tonnes de cocaïne saisies hier sur l'île de Saint-Martin.
Dans les Antilles françaises, un bateau sans immatriculation venait de s'amarrer et les occupants ont pris la fuite. Ils n'ont pas pu être rattrapés. Écoutez le colonel Maxime Winzer. Il commande le groupement de Saint-Martin et c'est lui qui a découvert la cargaison.
Il n'y avait plus personne aux abords du bateau. J'ai rempli un camion de gendarmerie où je mets 8 gendarmes mobiles et ben je l'ai rempli avec de la matière, de la cocaïne en fait. Donc c'est effectivement des quantités assez impressionnantes. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à 20 euros le gramme de cocaïne dans la Caraïbe. On va tout de suite se retrouver pas loin de la quarantaine de millions d'euros.
Et c'est un record à Saint-Martin, 1,8 tonnes.
Moi, de ce que j'ai entendu, ça me semble être un record. Effectivement, une belle prise.
Voilà pour ces propos recueillis par Hermine Leclèche.
Dans un court instant, un couple maquille sa boîte aux lettres en faux radar pour faire ralentir les voitures. 6h36.
Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
RTL Matin.
La suite du journal d'Olivier Bois et donc ce faux radar pour faire peur aux automobilistes.
On est en Dordogne, ouais. À la 12, et c'est la famille Moumont qui a customisé en quelque sorte sa boîte aux lettres parce qu'elle en avait marre des excès de vitesse devant son portail, Clara Etchari.
Des voitures qui foncent devant chez lui, Gérard n'en veut plus.
C'est 70, c'est juste devant l'école, ça passe à 50, mais ils sont plus souvent à 90, 100 que 70 ici devant.
Sur une idée de sa femme, le voilà qui commande sur internet des autocollants et transforme donc sa boîte aux lettres. De quoi rassurer son fils, Ethan, qui est tous les jours à proximité des voitures.
C'est un peu rigolo, mais... En même temps, ça peut être utile. Moi, je vais au bus tous les matins et je reviens presque tout le temps à pied tous les soirs. Et il roule un peu vite, oui.
Mais la plaisanterie n'est pas du goût de tout le monde.
J'ai des amis qui m'ont dit, tiens, ta boîte aux lettres, elle est par terre, toute cabossée. Et puis le lendemain, elle n'a plus de boîte aux lettres. Donc je suppose que la personne est venue la chercher pendant la nuit. Et du coup, on a remonté une boîte aux lettres, radar.
Alors bien sûr, l'effet n'est pas aussi radical qu'une vraie machine, mais au moins, il attire l'attention.
Pour ceux qui sont dans le coin, ils passent vite, hein. Mais pour ceux qui connaissent pas, ils roulent doucement.
En attendant, leur facteur est peut-être le seul de France à déposer du courrier dans un radar.
Merci Clara et Chari pour RTL. Une explosion a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans une usine des eaux de Volvic, dans le Puy-de-Dôme, provoquant des dégâts importants, son arrêt technique également, voilà ce que dit le parquet de Clermont-Ferrand. Notre site a été victime d'un acte de malveillance, selon la direction de Volvic, et une inscription a d'ailleurs été retrouvée sur un mur avec un slogan écologiste ayant trait à la gestion de l'eau. La ville de Nice fait comme Béziers et impose désormais un couvre feu aux mineurs de moins de 13 ans de 23h à 6h du matin jusqu'à la fin du mois d'août.
Le PSG rate le coche hier en Allemagne.
Ils ont perdu 1-0 hier à Dortmund. Mardi prochain, ce sera à domicile au Parc que les Parisiens essaieront de décrocher donc leur ticket pour la finale de la Ligue des Champions.
Marseille, de son côté, va essayer de faire mieux.
Ils affrontent ce soir à domicile les Italiens de l'Atalanta Bergame, donc en demi-finale aller de la Ligue Europe. Match qui se jouera à guichet fermé. Et ça va compter pour Joseph-Antoine Bell, ex-gardien de l'OM à la fin des années 80.
Le public à Marseille, il a véritablement envie de faire partie du jeu. On lui a donné une enceinte qu'il mérite et donc maintenant ça fait encore plus de bruit. Le public ici fait souvent gagner des matchs, c'est pas histoire juste de le dire, c'est que il se réveille et vous sentez qu'il vous porte et vous arrivez à faire l'impossible. Donc oui, le public marseillais mérite le respect et l'amour que les joueurs lui portent.
Voilà, Joseph-Antoine Bell au micro d'Hugo Hamelin. Marseille face aux Italiens de l'Atalanta Bergame. Nouvelle grande soirée football ce soir sur RTL. Le coup d'envoi c'est à 21h, mais RTL Foot dès 20h avec Eric Silvestro. Le match est également diffusé d'ailleurs sur M6.
Merci beaucoup Olivier, vous revenez à 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Un détour par le répondeur RTL parce qu'il y a pas mal de réactions après le témoignage de cette propriétaire de Cannes qu'on entendait hier matin, propriétaire d'un appartement. Ne froncez pas les sourcils comme ça Martial You. Il ne paie plus leur loyer depuis des mois. 7 000 € d'ardoise effacés d'un trait de plume par la justice. Les squatteurs sont toujours dans l'appartement. Écoutez ce message de Thierry.
C'est vraiment délicat de louer quelque chose à quelqu'un parce que quand on se fait arnaquer, faux dossier, fausse fiche de paie, etc., on ne peut rien faire. C'est honteux d'en être arrivé là. Et les gens qui ont un petit bien pourraient mettre en location, ils ne louent pas. Et voilà. Et donc, le marché des locations, il se tarit.
Et cette histoire de Cannes a rappelé un mauvais souvenir à Suzanne qui nous a laissé elle aussi un message sur le répondeur.
Le locataire ne payait ni le loyer ni les charges. J'ai dû faire une procédure pour l'expulser qui a duré plus de 2 ans, je crois 2 ans et demi. J'ai finalement obtenu le mandat d'expulsion et au moment de l'intervention de la police, la maire en place a appelé la préfecture pour demander la dernière prolongation de sursoir à l'expulsion. Heureusement, mon avocate a été intransigeante. Ce monsieur a été expulsé.
Le répondeur du 3210 pour tous vos messages ou via l'application RTL et sur le site rtl.fr. Prochain rendez-vous pour vous exprimer en direct sur l'info, ce sera à 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Notre question du jour ce matin, alors qu'un bassin de stockage des eaux usées est inauguré tout à l'heure à Paris-Austerlitz, est-ce que vous seriez prêt à vous baigner dans la Seine? C'est un non massif. 91% Marina.
Ah bah, de toute façon, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, vous êtes très très nombreux à dire en effet non. Evelyne, Martine et Alain ont la même réaction, même pas en rêve, disent-ils. Nous avons Nathalie qui est d'accord à mais après que Macron, Monsieur Macron et Madame Hidalgo s'y soient baignés. Elle attendra d'ailleurs quelques jours pour voir s'il y a des effets secondaires. Nous avons Marcel qui est d'accord, mais équipé d'un scaphandre. Et puis Carole qui nous demande si c'est sponsorisé par l'association des dermatologues parisiens.
Non mais voilà. On ironise, mais on avait un baigneur tout à l'heure à 6h15 qui nous disait qu'il s'était baigné plusieurs fois dans la Seine.
Et à son âme.
Non, il va toujours très bien.
Il nous a appelé de l'au-delà.
Et il va participer à l'inauguration de ce bassin tout à l'heure à Austerlitz. Vous vous baigneriez, vous, dans la Seine, Florian, ou pas ?
Non.
Non. Pour Martial
non.
Aussi.
Martial.
Non plus, non.
Non plus. Et Alba ?
Absolument pas.
Absolument pas. Bon, dans votre tablée, la France qui attire toujours, ça c'est une bonne nouvelle, hein, Martial.
Et oui, et ça fait 5 ans que ça dure, donc ça devient une vraie tendance, là.
Nous attirons les investisseurs étrangers, oui. 6h42.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble. Les French Ties arrivent chez Marionneau. Profitez de moins 32% des 79€ d'achat et moins 25% des 49€ d'achat du 30 avril au 7 mai. En ce moment, retrouvez l'eau de parfum La Vie est Belle en 100 ml de Lancôme à moins 32%. L'occasion parfaite de dénicher le cadeau idéal pour la fête des mères. Alors n'attendez plus, rendez-vous vite en magasin ou sur marionneau.fr et retirez votre commande en une heure seulement grâce au Click and Collect. Voir conditions en magasin et sur marionneau.fr dans la limite des stocks disponibles.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers, mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
Jérôme Florin,
RTL Matin.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Des orages violents ont traversé une partie du pays hier soir. Ça a commencé en Bourgogne, en touchant les vignobles de Chablis avant d'atteindre l'Île-de-France et de créer des perturbations dans les aéroports. Plusieurs avions devant atterrir à Roissy et à Orly ont été déroutés. Et dans l'Yonne, ce matin, on redoute des dégâts importants sur les vignes. Écoutez, Daniel Etienne Defay, les vignerons à Chablis.
C'est une catastrophe. Vous voyez ce que c'est qu'une balle de pétanque. Vous voyez ce que c'est qu'un cochonnet. Bon, ben, il y a eu des grêlons entre le cochonnet et la balle de pétanque. Les vignes, on vient de faire un tour à la lumière des phares. Le cœur du Chablis historique, moi, je l'estime à 60% détruit.
60% détruit, on y revient dans le journal de 7h.
RTL Matin.
Il est 6h45, c'est l'heure de votre table et du petit matin avec vous, Marina Giraudot, Martial You, Florian Gazan et vous, Alba Ventura. Alba, ce matin, vous dites oui au maintien du club de pétanque de Montmartre.
Ah mais carrément. Et alors, je vous explique la situation. À oui. Montmartre, il y a un club de boules, le CLAP, le club Le Pic Abbesse Pétanque, qui est installé là depuis plus de 50 ans, depuis 1971.
On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet.
Ça, c'est l'hymne, en fait. C'est Jodassin, ah, oui. Vous l'avez reconnu. C'est l'hymne du club. Alors, c'est vrai que l'installation du club, à l'époque, a été un arrangement. La situation n'a jamais été régularisée, même si Daniel Vaillant, l'ancien maire socialiste de l'arrondissement, du 18e, avait autorisé le raccordement à l'eau pour le club. Attenante à ce club, il y a une magnifique demeure qui est devenue un hôtel de luxe, très très bel hôtel, à 1000 euros la nuitée, 940,50 € exactement, sans le petit-déj, je suis allé voir.
Vous êtes bien informé.
Bah oui, je suis allé voir sur le site internet.
Investigation.
Et le patron de l'hôtel s'est sans doute dit que pour gonfler un peu son chiffre d'affaires, ce serait pas mal d'exploiter le terrain de boules et d'en faire, comme il dit, le plus beau jardin de Paris. La mairie de Paris s'est sans doute dit qu'il est doux d'entendre cette proposition qui permettra de rentabiliser cet espace public. Alors, il y a eu des appels à projets, mais ce n'était pas très équitable en termes de moyens, puisque l'hôtel a remporté la convention d'occupation, elle avait plus de moyens. Les boulistes ont installé leur tente, ils ne sont pas contents, le terrain est devenu une mini-ZAD, et le Conseil d'État vient maintenant de les prier de déguerpir ces clochemerles à Montmartre. Mais je vais vous dire, et je n'ai pas d'action dans le club de pétanque et je n'habite pas du tout dans le 18e arrondissement, entre un lieu authentique, très titi parisien, Bon, version un peu bobo parfois, avec sa jolie buvette vintage, ses arbres centenaires et ses buissons un peu fouillis. Au détour desquels on peut croiser, tiens, Fabien Galthié, Yannick Noah, Eric Elmosnino qui viennent taquiner le cochonnet. Et un jardin très entretenu, très bien taillé, qui aura des horaires d'ouverture et de fermeture, où l'on pourra pratiquer le tai chi et le yoga et même privatiser le lieu pour des événements hyper hype branchés. J'ai choisi « Faites respirer la capitale, bon Dieu, vive les boulistes !»
On allume une cigarette
avec l'hymne de Joe Dassin, donc un hymne spécialement écrit pour le club. Hein.
Oui. Ah, je crois pas qu'il ait été, c'est le club qui l'a récupéré.
Ah d'accord.
Qui a récupéré la chanson de Joe.
Merci beaucoup, un point c'est tout signé Alba Ventura qui nous dit ce matin « Vive les boulistes !» 6h47, on le disait, la soirée a été très très agitée hein, sur plusieurs départements, avec les orages, Marina. La journée sera encore d'ailleurs un peu orageuse.
Oui, sur le Grand Est et l'Ouest de la Corse.
Alors, c'est très rare, heureusement, que la foudre nous percute directement.
Ben oui, recevoir un éclair, donc une décharge électrique qui s'abat alors direct sur nous, ça ne représente que 5% des cas de foudroiement. C'est rare, mais alors c'est radical, c'est généralement mortel. Hein. En fait, la foudre frappe souvent la tête. Comme l'éclair cherche toujours le chemin le plus court, donc le plus élevé, il passe à travers les nerfs et les veines, endommage les organes avec de fortes brûlures. Ça s'appelle le foudroiement direct et c'est peu fréquent.
Et quel est le foudroiement le plus fréquent ?
C'est le foudroiement au sol. C'est lorsque la foudre frappe directement le sol, ou alors un objet, puis le courant traverse le sol, jusqu'à arriver à une personne à proximité. La moitié des blessures causées par la foudre le sont par ce mécanisme. Plus vous êtes éloigné de l'impact, moins c'est dangereux. C'est un foudroiement qui touche les hommes, mais alors surtout les animaux. En Norvège, le 26 août 2016, plus de 300 rennes sont morts, foudroyés ainsi. Vous voyez les images sur Internet, elles sont assez impressionnantes. Il y a des centaines et centaines donc, de rennes morts allongées les uns à côté des autres. Bon, il faut dire que l'air et le sol étaient fortement humides. L'eau est un bon conducteur de l'électricité. Ils étaient au sommet d'une montagne, donc c'est vraiment en hauteur, et tous concentrés sur un même espace. Les animaux en troupeau sont donc une cible facile. On sait que lorsqu'il y a de la foudre, il faut s'éloigner les uns des autres.
Parce qu'on peut être foudroyé par le contact.
Exactement, par le toucher, mais aussi en étant tout proche. Et ça, c'est le foudroiement latéral, c'est-à-dire que la foudre frappe une personne ou un objet plus grand que vous, et la décharge saute sur vous. En fait, vous éclabousse en quelque sorte. C'est pour ça qu'en cas d'orage, quand vous êtes en groupe, il est recommandé de s'éloigner de 30 à 60 cm. Et c'est assez fréquent, car un tiers des blessures causées par la foudre le sont par le foudroiement latéral. Donc les deux foudroiements les plus importants, c'est le latéral et c'est au sol. En France, on compte une centaine de personnes foudroyées par an, dont 10% en meurent.
Donc, gardons nos distances.
Exactement.
Merci Marina.
RTL. Toute l'actu économique avec Préfonds. Retraite, prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur préfonds.fr. Préfonds, le référent depuis 60 ans.
6h50, l'écho à New Martial You. Les investisseurs étrangers continuent à préférer la France. Selon le dernier baromètre EY, nous restons le premier pays pour la cinquième année consécutive.
Et oui, absolument. Cocorico. Et tant mieux. Cinq années de suite, on parle là d'une tendance hein, et plus d'un accident exceptionnel. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Même si on peut voir arriver quelques points noirs, mais j'y reviendrai. On totalise donc 1194 projets annoncés en 2023 devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais les crises sont passées par là. On enregistre quand même 5% de projets de moins que l'an dernier. Et si on regarde à l'échelle européenne, il y a quand même 1000 projets de moins en 2023 en Europe qu'en 2017.
Et pourquoi ?
Alors essentiellement parce que les États-Unis se retirent de l'Europe pour se replier sur leur zone. C'est un effet du protectionnisme ambiant avec une priorité qui est donnée aux ouvertures d'usines localement. C'est notamment ce qu'on a appelé le programme IRA qui réserve certaines aides aux entreprises implantées en Amérique. Les USA, c'était le premier investisseur, c'est toujours le cas, mais c'est en Europe un projet sur cinq. Et donc ça chute de 15% sur un an et de 30% sur deux ans.
Et quels sont nos atouts en France ?
Nos points forts, c'est la mobilité, les transports, la logistique, l'aéronautique, ça c'est classique avec Airbus évidemment, l'ameublement aussi parce qu'on reste un pays reconnu pour son design et IKEA injecte près d'1 milliard d'ici 2026 en France. Si je parle que des usines cette fois, eh ben la France se réindustrialise. Alors évidemment, on va pas corriger en 5 ans plus de 30 ans de désindustrialisation, mais quand même, 530 implantations ou extensions qui totalisent 20 000 emplois nouveaux.
Et quels sont nos points faibles alors ?
Alors, il y a moins d'investissements dans l'agroalimentaire et dans la chimie. Ça, c'était des points forts avant. On parle de chute supérieure à 20% en 2023. La France a été perçue à l'étranger comme le pays qui a le plus mis la pression sur les industriels pour faire baisser les prix en rayon au moment de l'inflation. Ben, ça calme un peu quand on veut développer un site de production. Et puis la chute de la chimie, bah, c'est la suite du Covid où la France a été absente.
Et est-ce qu'on garde une avance confortable sur nos concurrents quand même ?
Alors l'Allemagne, elle décroche, hein. Moins 12% d'investissement. Ah oui. Ah oui, c'est lourd pour eux. C'est pas forcément d'ailleurs une bonne nouvelle pour nous puisque c'est notre premier partenaire économique. Mais il y a aussi des pays beaucoup plus dynamiques que nous en ce moment. Le Royaume-Uni, qui est toujours deuxième mais qui enregistre 56 dossiers de plus que l'année précédente, alors qu'on en a perdu nous 65
c'est
en un an.
C'est très précis.
Ah bah oui, c'est précis. C'est presque des vases communicants, vous voyez. Et puis alors la Turquie, elle est aussi aux portes du podium.
Et sur quoi le Royaume-Uni concurrence-t-il ?
Alors, c'est ça qui peut poser problème. La France a toujours les mêmes soucis. Il y a peu de nouvelles implantations d'usines, un tiers des projets pour nous, contre les trois quarts pour Londres et ses satellites. Les projets français créent peu d'emplois à chaque fois. On investit dans les robots en France, ça coûte moins cher que la main-d'œuvre. Et il y a aussi une vraie différence entre ce qu'on met en avant dans la communication et la réalité des investissements. Nous, on parle beaucoup intelligence artificielle, gigafactory pour les batteries, banque d'affaires. Bah, la vérité, quand on regarde les chiffres, c'est que dans ces domaines, ce sont les Anglais qui nous dépassent et d'assez loin.
Votre plus, Martial, Nike garde le maillot bleu.
Oui, je vous parlais hier d'Adidas qui lorgnait sur le maillot de l'équipe de France de football. Bah, finalement, la FFF a renouvelé son contrat avec Nike jusqu'en 2034. Ça fait 13 ans que l'Américain est l'équipementier des Bleus.
Et votre note, 40 sur 20 à la qualité de l'air en Île-de-France.
Oui, parce que les concentrations de particules fines ont baissé en moyenne de 40% entre 2013 et 2023 en région parisienne selon Air Paris. C'est aussi un des effets de la limitation des voitures et de la montée en puissance des véhicules électriques.
Donc ça donne une note de 40 sur 20.
Oui, d'accord. Oui, 40%, j'aurais pu vous le traduire sur 20, c'est vrai.
Ah ouais, les pourquoi de l'info. Florian Gazan, hier, c'était le 30e anniversaire de la mort du pilote brésilien Ayrton Senna lors du Grand Prix de San Marino à Imola. Et vous allez nous expliquer pourquoi le casque d'Ayrton Senna est entré dans la légende.
Ouais, Jérôme, sans doute le casque le plus iconique de l'histoire de la Formule 1. Un casque qu'il a commencé à porter dès 1979 lorsqu'il fut choisi pour représenter le Brésil au championnat du monde de karting. Il avait alors 19 ans et pour le concevoir, il avait fait appel à la star des designers de casques, son compatriote Sid Mosca. C'est lui qui va avoir l'idée de le faire entièrement jaune avec une bande bleue et une bande verte.
Ce sont les couleurs du Brésil.
Oui, mais c'est pas la seule raison. La première, elle est toute bête, mais avant Senna, aucun pilote de course n'avait jamais porté de casque jaune. Il faut dire que le casque intégral en Formule 1, ça remonte seulement aux années 70, quand les voitures ont commencé à dépasser les 250 km/h dans les virages. Avant ça, les pilotes portaient des bonnets en cuir ou des casques légers d'aviateur avec des lunettes. Pas très sécure, résultat des accidents mortels comme en 1960, où le pilote anglais Alan Stacey est décédé après s'être pris un oiseau en plein visage.
Oh là là. Bon, et c'est quoi l'autre raison du jaune ?
Ben, Senna voulait une couleur qui pète de loin, d'où ce jaune citron, pour que le public le reconnaisse, et surtout pour que quand un adversaire l'aperçoive dans son rétroviseur, il sache immédiatement que le Brésilien était à ses trousses, de façon de lui mettre la pression, renforcée par ses deux bandes, verte et bleue, pour donner une impression plus agressive. Ce casque, Senna n'en a jamais changé de toute sa carrière et il le portait donc le 1er mai 1994, le jour de sa mort. Une mort dans laquelle son casque d'ailleurs a malheureusement joué un rôle.
Ah, et lequel ?
Ayrton Senna était victime en fait de la partie faible de son casque. Lors du crash, une partie de sa voiture s'est détachée et est venue heurter la visière, la transperçant comme une épée. Si elle avait touché une autre partie du casque, il aurait sans doute survécu, surtout qu'il n'a eu aucun os brisé dans ce choc. Un vrai coup de malchance. D'ailleurs, ce casque fatal a eu une histoire un petit peu spéciale.
Pourquoi ?
Bah, pour les besoins de l'enquête et déterminer les responsabilités dans l'accident de Senna, le casque est resté 8 ans entre les mains de la police de Bologne, en Italie, après quoi une bataille juridique s'est nouée entre l'écurie Williams et Bell, le fabricant du casque, pour savoir qui en était le propriétaire. C'est finalement Bell qui l'a récupéré et a décidé de l'incinérer en 2002 à Bologne, en présence des proches de Senna, pour éviter toute spéculation morbide. Ah oui. Un collectionneur japonais avait proposé par exemple 10 millions de dollars pour acheter ce casque à l'intérieur ensanglanté. Il y avait d'ailleurs 3 autres casques de change de Senna. Un a été offert à sa maman, un à son manager, et l'autre est dans un coffre, le dernier, chez Bell. Aujourd'hui, ce casque est tellement culte qu'on continue à le fabriquer et à le vendre. C'était la volonté d'Ayrton Senna, qui de son vivant avait fait faire 1000 répliques vendues chacune 3 000 $ au profit de sa fondation pour aider les jeunes, qui est aujourd'hui dirigée par sa sœur Viviane avec le soutien d'anciens pilotes, dont bien sûr son grand rival devenu ami, Alain Prost.
Bah, c'est une belle histoire au final. Merci beaucoup Florian Gazan, merci à toute la tablée. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
Oui, je vais revenir sur l'éviction de Raphaël Glucksmann du défilé du 1er mai. La guerre des gauches continue, c'est détestable.
RTL, 6h56.
RTL. Renault.
Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380 euros par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4500 euros, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si Accordiac, voire conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, il est à 79 centimes.
Le concombre ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, le concombre est à 79 centimes la pièce.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Et le deuxième est à moins 50%, soit 39 centimes le concombre. Ça revient à 1,18€ le lot de deux.
Oh, ils encombrent vraiment pas. On est mal.
Bah, c'est le concombre.
Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
RTL Matin.
Marina, alors où est-ce qu'il y aura du soleil aujourd'hui?
Oui, il y en aura un petit peu. Bon, ce sera entre deux passages nuageux avec un petit risque d'averse, mais alors ce sont quand même les éclaircies qui dominent là ce matin de la Bretagne au Pays de la Loire. Et cet après-midi, après les averses de ce matin, ça ira mieux aussi sur le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Voilà pour le soleil.
Et ailleurs, tout pourri?
Bon, voilà, ailleurs, ce sont les nuages qui dominent. Les averses sont nombreuses, elles le seront si vous n'en avez pas, vous en aurez. Concernant les orages, alors c'est terminé pour le gros amas que l'on a eu cette nuit, mais il y en a encore quelques-uns qui traînent là en ce moment. On a des impacts de foudre vers les Vosges ou encore la Meuse. Il y a aussi des impacts de foudre sur l'ouest de la Corse. Ça va rester comme ça, nuageux, pluvieux. Il y aura de la neige aussi en montagne sur les trois quarts du pays. La vigilance orange crue est terminée aussi.
Et les températures?
Alors les températures, là, ça va bien baisser. On aura entre 10 et 19 degrés. Ce sera en dessous des moyennes de saison. Ça va baisser un petit peu partout. Alors, sauf dans le sud-ouest où ça va remonter, mais c'est hier que ça a fortement baissé dans le sud-ouest. Donc de toute manière, c'est frais pour la saison. Vous aurez 12 degrés à Dijon et à Lyon. Il ne fera que 14 à Paris et à Marseille. Je rappelle qu'à Paris, hier, il y avait 21. 14, c'est ce que l'on aura aussi à Abbeville, 15 à Nevers et à Toulouse, 16 à Nancy et Metz, 18 à Lille tout de même et 19 à Strasbourg.
Merci Marina. Vous allez pouvoir rejoindre Amandine Bégaud et Yves
Calvi. Ah oui, et nous l'attendons avec impatience.
Ah oui,
bonjour à tous les deux. Bonjour.
Tout va bien?
Très très bien.
Bon, on vous dit à demain matin, 4h30.
À demain, bonne émission.
Bonjour Amandine.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est un témoignage exceptionnel hein, sur les dernières heures de Johnny que vous nous proposez ce matin.
La journaliste Anne-Sophie Yann retrace les derniers jours de la star, portrait d'un combat hors norme, car oui, jusqu'au bout, Johnny Hallyday pensait qu'il s'en sortirait. Le 20 octobre 2017, 6 semaines seulement avant sa mort, il est épuisé par les traitements, rongé par la maladie, il a mal partout et pourtant il enregistre ceci.
Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être.
La voix est parfaite, 3 prises seulement.